me semble que pour que la vie chrétienne soit solide et qu'elle dure, il faut qu'elle soit fondée sur la parole de Dieu. Ce qui a marqué la réforme, c'est un retour aux saintes écritures, amen, dont nous sommes les héritiers. Ça a été de remettre au centre ce que dit la Bible, et non pas ce qui se pratiquait dans l'Église romaine catholique. Et pour nous, ce qui compte aussi, ce n'est pas ce qui se pratique, quelles que soient les assemblées, même évangéliques, mais nous voudrions avoir une vie fondée sur la parole de Dieu. Amen. Et non pas sur la tradition. Alors on va lire dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Excusez-moi pour la voix, j'ai un petit microbe, je me suis fait tester, rassurez-vous, je n'ai pas le Covid, mais ça va changer un petit peu la voix, mais c'est secondaire. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Ce qui m'a arrêté, c'est l'importance qu'avait l'Écriture pour Jésus-Christ. Et nous nous pencherons quelques instants sur ces textes qui nous montrent que bien qu'il était le Fils de Dieu, il se référait, il se soumettait, il s'appuyait sur l'Écriture. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus, emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit. » Et c'est cela, vous verrez qu'il va revenir sans arrêt face au diable. Il ne parle même pas en son nom alors qu'il pouvait le faire, mais il dit, « Il est écrit. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, le diable aussi le dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et leur dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servir. Amen. Amen. Trois fois, Jésus répond au diable par « Il est écrit ». La seconde fois, « Il est aussi écrit ». Et le diable n'y revient pas. Il sait très bien que le Fils de Dieu, étant la parole faite chair, ne pourra pas être atteint par une fausse conception des Écritures inspirées par le diable. Trois fois, il cite le Deutéronome. Les trois citations sont dans le Deutéronome. Jésus dit, il est écrit. Et ce qui compte dans l'Église, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui compte dans notre foi. Nos pères nous ont toujours enseigné que la parole de Dieu prime sur l'expérience. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on a vécu, ce que l'on ressent. Mais c'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est un fondement ferme et inébranlable. Et quand bien même certains nous présenteraient des expériences exceptionnelles, si cela contredit l'Écriture, nous ne croirons pas à ce qui nous est dit. Nous n'avons à croire que ce qui est conforme aux saintes Écritures. Une remarque, Jésus a réussi là où Israël a échoué. Vous comprenez ce passage très important. Israël, pendant 40 ans, a échoué dans les murmures. Ils sont tous morts parce qu'ils n'avaient pas la foi pour entrer dans le pays promis. Mais Jésus reprend le même chemin qu'Israël. En 40 jours, il défait l'adversaire. Il réussit là où Israël a échoué. Alléluia. Parce que celui qui nous met en possession de notre salut, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais dans son combat contre l'adversaire, Il s'appuie sur l'Écriture. Jésus connaissait très bien les Saintes Écritures. Il les citait, et à bon escient, le diable peut utiliser la Bible. Preuve en est, toutes les fausses doctrines qui, au départ, sont basées sur des textes de la Bible. Les témoins de Jéhovah vous diront ce qu'il est écrit dans la Bible, ceci. Les mormons aussi, toutes les sectes vont dire « il est écrit ». Mais c'est à nous de connaître la parole par le Fils pour dire « il est aussi écrit ». Amen. Et pour avoir une doctrine saine, c'est-à-dire connaître globalement les Saintes Écritures. Alors on va dans Luc chapitre 2 se rappeler que déjà à 12 ans, le Fils de Dieu aimait les Écritures. Luc chapitre 2, verset 46. Luc 2, 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. Vous connaissez l'épisode ? C'est à l'occasion d'une fête, Jésus a 12 ans. Les parents ne se rendent pas compte de son absence parce que Jésus aime la maison de Dieu, il aime la parole de Dieu, il écoute, il interroge. Et il étonne aussi par ses réponses. Il était avec les docteurs. Nous ne devons pas penser que Jésus avait une connaissance surnaturelle de l'Écriture. Que Jésus, comme il était le Fils de Dieu, ça lui tombait tout cru et qu'il savait, comme un être surnaturel, déjà tous les textes de l'Ancien Testament. Non, en tant qu'homme, il a dû les apprendre par cœur, il a dû les méditer, passer beaucoup de temps, y réfléchir. Et on le voit déjà à 12 ans, il avait une connaissance impressionnante des Écritures, qui surprenait les docteurs de la loi. Il avait soif, il questionnait, le Fils de Dieu questionnait. Intéressant quand même. Quelle humilité. En réalité, quand on a soif de connaître la vérité, l'orgueil, on le met derrière soi. La priorité de connaître l'emporte sur notre fierté. Jésus avait soif, interrogé. Et je voudrais vous dire, vous qui ce matin peut-être n'êtes pas encore très affermi dans les voies de Dieu, venez pour les premières fois. La priorité, c'est même pas ce que je vous dirai lorsque vous viendrez dans les réunions, mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et il vous faut lire la parole de Dieu, nourrir votre foi de ce qui est écrit. Vous grandirez dans la connaissance de la vérité, et cette vérité vous affranchira. Jésus aimait la loi, et il y croyait avec intelligence. Vous savez, parfois, on a une lecture superficielle de l'Écriture. Elle nous semble fade. On lit et on se dit, ça m'apporte pas grand-chose. Parce qu'il manque cette intelligence que Jésus avait des Écritures. Quand Jésus parlait des Écritures, c'était toujours nouveau, profond, révélateur. Parce qu'il y avait l'Esprit qui était sur lui. Et quand il parlait de l'Écriture, il en parlait comme de l'intérieur. Et nous, parfois, nous restons trop à la surface et nous sommes déçus de ne pas pénétrer la vie des Écritures. Parce que les Écritures sont vivantes. Amen. Elles sont inspirées par le Saint-Esprit. Où en êtes-vous avec la parole de Dieu? Chrétien, est-ce que vous la lisez encore? Est-ce que vous la lisez méthodiquement ou simplement un peu de temps en temps, par hasard? Vous donnez-vous la peine que Jésus s'est donnée pour connaître les saintes lettres? Notre maître s'appuyait sur la parole de Dieu, citer la parole de Dieu, se réfugier en la parole de Dieu. Être chrétien, c'est ressembler à Jésus-Christ. Ressembler à Jésus-Christ, c'est donc aimer la parole de Dieu, l'étudier et s'enraciner en elle. Il a souvent fait référence à l'Écriture quand il discutait avec les gens, avec ses détracteurs même. Et on va voir 2 fois où Jésus fait référence à l'Écriture. On va lire dans Matthieu chapitre 19, versets 1 à 8. Matthieu, chapitre 19, verset 1er. Matthieu 19, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu ?» Donc il se réfère à l'Écriture, « N'avez-vous pas lu ?» Que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? » Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. » À propos de cette question, un piège sur le divorce, le remariage, Jésus dit, « N'avez-vous pas lu ?» Il croit au commencement. Il croit à Adam et Ève. Il croit à ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Notre Seigneur croyait en ce que l'Écriture disait. Adam et Ève ont vraiment existé. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas un mythe. Jésus y croyait. Puisque à ces hommes religieux, il y revient. Il dit au commencement, ce n'était pas comme ça. Donc, il a une lecture simple de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, le monde protestant voit dans tous ces passages des symboles, des mythes, des légendes. Jésus croyait ce qui était écrit. Et il prenait même ces événements pour des références intemporelles, pour toujours. Au commencement, l'homme et la femme étaient unis. C'est la volonté créationnelle, originelle de Dieu. Alors, c'est bien un débat intéressant. Alors, les pharisiens sortent la carte de la loi. Ah oui, mais Moïse a permis le divorce. Et là, Jésus nous dit quelque chose de très intéressant. Tout d'abord, Jésus, comme l'apôtre Paul, enseigne l'imperfection de la loi. C'est vrai qu'il y a un passage qui dit « Ta parole est parfaite ». Mais Paul, dans ses épîtres, dit bien que la loi n'a rien amené à la perfection. Rien. Et Jésus explique que dans la loi, il y avait des choses qui étaient dues à la condescendance de Dieu. À cause de ce que nous sommes, Dieu a permis, mais ne voulait pas vraiment le divorce. C'était à cause de la méchanceté du cœur des humains. Jésus nous enseigne à mieux comprendre la loi. Le but de la loi, c'est que nous comprenions que nous sommes mauvais. Et c'est ce que fait ici Jésus, en parlant de cette lettre du divorce. Il explique aux pharisiens, oui, il y a cette possibilité dans la loi, mais Dieu ne le voulait pas au commencement, et lui non plus, il l'expliquera après, il ne le veut pas. Parce que la loi met avant tout en évidence le péché. Pourquoi le divorce a été provisoirement édicté dans la loi? C'est parce que les gens sont tellement méchants qu'ils ne peuvent pas s'aimer toute leur vie. Et ils se séparent. Le but de la loi, c'est de montrer qu'on est des pécheurs. La loi ne nous libérera jamais du péché. Si vous voulez vivre dans la sainteté, ne vivez pas sous la loi. Le péché n'aura pas de pouvoir sur ceux qui vivent sous la grâce. Alléluia, c'est l'épître aux Romains. Ainsi, Jésus nous montre que il nous faut bien comprendre l'Ancien Testament. Le but de la loi n'est pas notre perfectionnement, mais le but de la loi, c'est de nous avoir donné, d'être amené à Jésus-Christ. Lisons dans Matthieu chapitre 22, verset 31. Matthieu 22, verset 31. Voilà ce qui est dit. Matthieu 22, 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Alors encore ici, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Amen. Alors ici, ce sont les Sadducéens qui essayent de piéger le maître quant à la résurrection. Ils sortent de leur chapeau une histoire invraisemblable. Une femme qui a eu 7 maris, ils sont tous morts. Alors la question piège tombe à la résurrection. Qui sera ? Elle sera la femme de quel mari ? Puisqu'elle en a eu 7. Question piège. Le Seigneur répond, mais il va plus loin que la réponse à leur question. Il leur dit tout simplement, n'avez-vous pas lu ? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un verset tout simple, une démonstration implacable. Dieu n'est pas le Dieu des morts. S'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que Abraham, Isaac et Jacob vivent encore. C'est que Dieu est le Dieu de la vie et de la résurrection. Les Sadducéens se trompaient beaucoup sur l'Écriture. Le Seigneur Jésus, par un simple verset de l'Ancien Testament, l'a éclairé et a pu montrer quelle était la vérité. N'avez-vous pas lu ? Nous avons besoin de lire la parole de Dieu, bien-aimés, de lire tous les jours la parole de Dieu. Si nous nous contentons seulement des réunions, nous serons affaiblis. Nous aurons du mal le dimanche matin à louer Dieu, à nous approcher de lui. Nous aurons du mal dans les combats de la vie. Constamment, le Seigneur Jésus se référait aux Saintes Écritures. Allons dans Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Luc 24, verset 25. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre toutes ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Toutes les Écritures, c'est tout l'Ancien Testament ici. Jésus a expliqué tout l'Ancien Testament aux deux disciples d'Emmaüs pour montrer que tout l'Ancien Testament parlait de lui. J'aurais beaucoup aimé assister à cette étude biblique en promenant avec le Maître. Amen. Christ dans toutes les Écritures, dans tout l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus n'est pas venu en parallèle de l'Écriture. L'Épître aux Hébreux dit d'ailleurs, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté avec le rouleau qui est avec moi. Christ n'est pas venu en parallèle de l'Écriture. Il est venu selon les Écritures, accomplir les Écritures et même accorder aux Écritures un sens nouveau par la nouvelle alliance. Bien-aimés, si notre Maître était un homme de la parole, c'est ce qui doit guider notre vie à tous. Il y a dans le monde chrétien aujourd'hui beaucoup de choses pour plaire, pour se distraire. Mais il faut, quels que soient les modes évangéliques, il faut que l'Église soit centrée sur l'Écriture. La seule véritable Église sera celle qui, comme son Maître, respectera les saintes lettres et s'efforcera de les suivre. Amen. La parole de Dieu, c'est elle qui a toute autorité dans notre foi. Nous devons interroger ce que nous croyons, ce que nous faisons, ce que nous disons. Nous devons interroger toutes nos pratiques, toutes nos croyances, par l'Écriture. Amen. Et nous laisser conduire par elle. Jésus est dans toutes les Écritures. Savez-vous lire dans l'Ancien Testament et y voir Jésus? Parfois c'est difficile, cela m'a demandé quelques années. J'ai lu des livres pour m'y aider. Mais plus le temps passe, plus l'Esprit de Christ qui est en nous, nous donne de lire l'Ancien Testament d'une autre façon. L'Ancien Testament est la parole de Dieu. Amen. On ne doit pas penser que le Nouveau Testament est valable et plus l'Ancien. Alors j'ai quelques précisions à faire sur des passages bibliques. Vous voulez bien les lire avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Versets 14 à 18, s'il vous plaît. Mais ils sont devenus durs d'entendement, il s'agit des Juifs, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce passage, parce qu'on a parfois dit un peu de sottise à ce sujet-là. La lettre tue. J'ai déjà entendu dire, la lettre tue, sous-entendu, la Bible, elle peut faire mal. Ce qui compte, c'est la vie du Saint-Esprit. Ce passage ne veut en aucun cas dire cela. La lettre qui tue ici, c'est l'Ancienne Alliance. Et le ministère de l'Esprit, c'est le ministère de la Nouvelle Alliance. Parce que Dieu soit béni. Christ était venu pour accomplir deux promesses annoncées par tous les prophètes. Tous les prophètes de l'Ancien Testament disaient que le Messie accomplirait essentiellement deux promesses. La première, le pardon du péché, des péchés, et la seconde, le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et en Jésus-Christ, ces deux promesses ont été accomplies. C'est-à-dire que la nouvelle alliance, c'est l'alliance du ministère de l'Esprit, mais ça ne gomme pas les Écritures. La lettre qui tue, c'est l'Écriture sans l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas l'Écriture. L'Écriture ne tue pas. Nous lirons un autre texte tout à l'heure. La parole de Dieu est vivante. Amen. La lettre qui tue, ce n'est pas la Bible. C'est la Bible sans Jésus-Christ. Ça, c'est la lettre qui tue. C'est l'Ancien Testament sans la Nouvelle Alliance. C'est la lettre qui tue. Mais l'Esprit qui vivifie, c'est l'Écriture accomplie et vécue en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est ça le ministère de l'Esprit. Alléluia. Et quand il est écrit, là où est l'Esprit, là est la liberté, là aussi on a pris ces passages pour dire, l'Esprit, là est la liberté, dans les réunions, il faut être libre et il faut faire ce qui nous passe par la tête. Dans le passage, c'est la liberté d'enlever le voile. Dans ce passage, Moïse n'avait pas cette liberté d'enlever le voile. Il restait voilé parce qu'il ne voulait pas qu'on regarde la gloire de l'Ancienne Alliance, parce que l'Ancienne Alliance était passagère. Il n'avait pas cette liberté de rayonner. Par contre, Paul dit, nous chrétiens, nous contemplons le voile découvert. Nous avons cette liberté de vivre la vie chrétienne en Jésus-Christ. C'est de cette liberté dont il est question. C'est la liberté de lever le voile. C'est pas la liberté de faire ce qu'on veut, c'est pas la liberté de se libérer de l'Écriture, pas du tout. Là où est l'Esprit, là est la liberté, c'est la liberté de nous approcher de Dieu, c'est la liberté de la Nouvelle Alliance, c'est la liberté de ne pas se voiler, mais d'avoir une communion réelle, sans voile, avec le Seigneur. Alléluia. Les Juifs sont en prison, sont emprisonnés. C'est qu'en Jésus-Christ que le voile s'enlève et qu'il y a cette liberté. Alléluia. C'est ce que nous dit ce passage. Alors il faut faire une différence entre l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais l'Ancien Testament reste la parole éternelle de Dieu et toujours valable. Il faut comprendre l'Ancien Testament en Jésus-Christ. La première Bible des chrétiens, c'était l'Ancien Testament. Jésus-Christ, quand il faisait constamment référence aux Écritures, dont nous l'avons vu dans les textes de l'Évangile, c'était l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas dépassé. C'est la loi de Moïse qui est dépassée. Oui, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes encore régis par toute la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament. Mais il faut que l'Ancien Testament soit compris dans l'esprit de la Nouvelle Alliance. Mais l'Ancien Testament reste la parole de Dieu. Est-ce qu'un chrétien est sans loi? On lit 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21. 1 Corinthiens 9, 21. 1 Corinthiens 9, 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Amen. Un chrétien n'est pas sans loi. Il n'est plus sous la loi de Moïse, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus sous la loi de Dieu. Paul dit qu'il est sous la loi de Dieu étant sous la loi de Christ. Paul enseigne que le chrétien est sous la loi de Dieu en Jésus-Christ, mais plus en Moïse. Nous ne vivons plus en Moïse, nous vivons en Jésus-Christ. Et quelle est la loi de Dieu en Jésus-Christ? Eh bien, c'est tellement différent de la loi de Dieu en Moïse. La loi de Dieu en Jésus-Christ, c'est tout d'abord qu'il a tout accompli pour nous. Amen. La loi en Moïse, il faut accomplir beaucoup de choses avec échec, impossible. La loi de Dieu en Jésus, c'est d'abord l'accomplissement en Jésus. Alléluia. Et il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais ce n'est pas mon propos, nous y reviendrons certainement plus tard. Mais c'est simplement pour vous dire que un chrétien n'est plus sous la loi de Moïse, mais il est encore sous la loi de Dieu en étant sous la loi de Christ, en Jésus-Christ. D'ailleurs, tous ces textes de l'Ancien Testament qui nous disent « j'aime ta loi », nous pouvons nous l'approprier en tant que chrétiens. Nous aimons la loi contenue dans l'Ancien Testament, mais comprise en Jésus-Christ et plus du tout en Moïse. Je ne sais pas si ce sujet vous intéresse ce matin. Ce n'est pas une prédication pratique. Peut-être vous aimez venir à l'Église et avoir des réponses pour votre semaine, des choses plus concrètes. Il doit y avoir des messages qui pourront vous aider dans ce domaine-là. Mais je crois que l'Église doit aimer l'enseignement de la parole de Dieu. Et parfois, nous devons nous réunir, non pas toujours à des fins utiles, pour que cela nous serve, mais nous devons apprendre à ce que notre culte s'élève, afin qu'il soit pour Dieu. Le culte pour Dieu ne se résume pas au temps de louange. Écouter la parole de Dieu est un acte quelque part aussi d'adoration. Et si nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour mieux connaître le Seigneur, sa parole, sa volonté. Ce n'est pas toujours pour avoir des réponses concrètes, comme si la Bible était un manuel pratique pour les détails de notre vie. Il n'y a pas de liberté sans soumission. Amen. Écoutez bien cela. Il n'y a pas de liberté sans soumission. Paul dit bien, avec les païens, je suis comme sans loi. Mais en fait, je suis sous la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. La grâce, ce n'est pas un appel à se libérer de toute autorité. La grâce, c'est la possibilité de vivre la loi de Dieu en Jésus-Christ. Amen. La loi, ça nous a tous montré que si on essaye d'obéir à Dieu par nos propres forces, nous n'y arriverons jamais parce que nous sommes trop mauvais. Mais la grâce, c'est de nous dire que notre Sauveur est aussi notre libérateur pour nous faire vivre selon la parole éternelle de Dieu. Amen. Je voudrais aussi voulu faire un petit rappel ce matin. En son temps, dans les églises, on a beaucoup parlé de la parole Rhéma et de la parole Logos. Excusez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va peut-être les sembler rébarbatif. C'est en fait deux mots grecs, Rhéma et Logos, qu'on traduit par parole. Alors un jour, dans certains ouvrages, on a lancé cette idée que Rhéma et Logos, c'était deux paroles différentes. Rhéma était une parole particulière, vivante, une parole de Dieu qu'on lit dans la Bible et Dieu nous parle. Et Logos, ce serait la parole générale de Dieu. En réalité, quand on voit l'usage de ces mots en grec, ça n'a aucun fondement, c'est faux. Et il faut faire attention à cela. Il ne faut pas, pourquoi je parle de cela? Il faut faire attention de ne pas faire de la Bible un livre magique. Pour l'ouvrir, Seigneur, parle-moi, et avoir des réponses. Être conduit de cette façon, régulièrement, est une immaturité spirituelle. Dieu parfois nous parle spécialement, je le sais bien. Et parfois même, au début de ma conversion, il m'est arrivé d'ouvrir un peu au hasard. Et Dieu m'a parlé, alléluia. Mais je ne dois pas continuer comme ça. Il faut grandir dans la foi. Il faut connaître toute la parole de Dieu. Lire toute la parole de Dieu. Le Lévitique aussi, d'autres passages plus difficiles, plus ardus. L'Apocalypse. Pendant des années, j'ai lu l'Apocalypse sans vraiment bien le comprendre. Mais à chaque fois que je le lisais, pourtant je sentais que le Seigneur m'édifiait. Alléluia. Sa parole est glorieuse. Elle dépasse notre entendement. Nous ne devons pas faire non plus donc de la Bible une parole divinatoire. Un livre pour y trouver tout de suite une réponse à ce que l'on vit. Vous savez qu'un jour quelqu'un a dit, à force de vouloir voir des signes, on y voit des canards. C'est-à-dire que quand on lit l'Écriture avec un besoin, avec le besoin d'une réponse, on peut déjà s'installer dans un biais sans s'en rendre compte. Je sais que Dieu peut nous parler de cette façon-là et qu'il le fait occasionnellement. Mais ça ne doit pas être une pratique régulière. Nous devons lire la parole de Dieu pour connaître le Seigneur et sa parole. Amen. Avant toute chose. Alors je vous dis cela pourquoi. Peut-être qu'actuellement, en lisant la parole de Dieu, vous vous dites, le Seigneur ne me parle pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le Seigneur ne me parle pas? Il n'y a pas une parole qui sort, il n'y a pas le rhéma qui sort. Je voudrais vous le dire, il ne faut pas qu'il y ait un rhéma à chaque fois que vous lisiez la Bible. De toute façon, ce rhéma, c'est plus une conception théologique erronée qu'autre chose. Mais il ne faut pas à chaque fois, quand vous lisez la Bible, qu'il y ait une parole de Dieu pour vous. La Bible, c'est comme de l'eau. Ça lave. On la lit, on se lave. Même si Dieu ne nous parle pas particulièrement, il nettoie nos pensées. Il nettoie les souillures que nous avons contractées dans le monde. Sa parole nous purifie. Sa parole nous sanctifie. Amen. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais il faut les lire d'abord sans les comprendre. Elles s'emmagasinent. Elles sont stockées. Puis un autre jour, on les relit et là le Seigneur nous le révèle. Mais Dieu ne donne pas sa parole comme cela, avec légèreté. C'est à ceux qui cherchent que Dieu se révèle. Ceux qui lisent des fois pour rien, pendant une semaine. Mais au bout d'une semaine, il n'y a pas longtemps je lisais dans Jérémie, quand ses compatriotes ont demandé ce que Dieu disait de leur choix d'aller en Égypte. Vous savez combien de temps ça a pris à Jérémie pour avoir la parole de Dieu? 10 jours. 10 jours. L'homme de Dieu a cherché 10 jours le Seigneur pour recevoir sa parole. Ne soyons pas pressés. Nous sommes dans le siècle des raccourcis. Il nous faut lire toute la parole de Dieu avec honneur, crainte, respect, avec discipline, avec méthode. Lisez un livre en entier. Quand vous avez fini un livre en entier, lisez un autre livre en entier. Lisez toute la Bible avant de relire le livre que vous venez de terminer. Amen. Les uns et les autres. Quel temps donnez-vous à l'Écriture? Un dernier texte pour conclure. Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. J'ai déjà prêché sur cela quand je suis venu. Mais je crois que c'est un appel régulier de se poser devant la parole de Dieu. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Termine avec ce beau passage. Savoir s'arrêter. S'asseoir. Il y a un vieux cantique qui disait « Comme s'asseyait Marie ». Savoir s'arrêter, s'asseoir. Êtes-vous actif ? À n'en pas douter, oui. Êtes-vous hyperactif ? Il faut savoir s'arrêter et s'asseoir. Est-ce que vous savez, chez vous, vous arrêter et vous asseoir ? C'est fondamental de prendre le temps d'écouter sa parole, de lire sa parole, d'être enseigné par elle. Si nous ne prenons pas le temps de ce contact avec l'Écriture, c'est le monde qui va nous influencer. C'est les autres choses que nous regarderons qui nous influenceront. Le temps passé tranquillement dans la paix avec la parole de Dieu va nous sanctifier. Écoutez plutôt que faire. C'est difficile. Savoir s'arrêter, s'asseoir et écouter plutôt que faire. Marthe faisait, Marie écoutait. Quelle conception avez-vous de votre vie chrétienne ? Est-ce que vous pensez qu'actuellement, en écoutant la prédication de la parole de Dieu, c'est secondaire, c'est perdre votre temps ? En réalité, notre première adoration, notre premier service plutôt, c'est d'écouter sa parole. Amen. Nous devons avoir peut-être une vision moins hyperactive du service de Dieu. Ce texte est frappant. Jésus dit, Marthe, Marie a choisi la bonne part. Ne lui sera point ôtée. La rentrée arrive. Une nouvelle année scolaire est entamée, une nouvelle année aussi pour l'Église. Que pensez-vous faire de cette année ? Vous êtes dans le starting block, prêt à foncer ? Je vous propose plutôt de vous poser, de rencontrer le Seigneur, d'écouter sa parole et de les laisser nous conduire les uns et les autres. Amen. Vous savez que l'activité peut nous tromper. On peut, même nous pasteurs, en faisant beaucoup de choses, perdre l'essentiel, le contact avec Dieu. Cela demande, écouter plutôt que faire, une certaine docilité. Savoir se remettre en cause. S'asseoir et écouter, c'est se mettre dans la position d'un élève. C'est ne pas être en position de maître ou de professeur. Ça demande de l'humilité. Nous avons entendu quelques paroles sur l'orgueil. Certainement qu'il faut de l'humilité pour s'asseoir et écouter. Amen. Comment écoutez-vous ce matin et d'une façon générale, non pas moi. Mais comment écoutez-vous la parole de Dieu ? Êtes-vous assis comme un élève qui a besoin d'apprendre ? Ou est-ce que vous savez déjà tout et que vous n'avez plus rien à apprendre? Alors c'est curieux, mais dans cette disposition d'esprit, effectivement, nous ne recevons pas grand-chose. Mais sachons nous asseoir comme s'asseyait Marie. Elle avait besoin d'être enseignée. Docilité, remise en cause. Ce qui est vraiment nécessaire au fond dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà quelques rappels. Rien de bien nouveau. Si ce n'est peut-être de mieux comprendre l'Ancien Testament dans la Nouvelle Alliance. Ça nous prend un petit peu de pied des fois. On pense que l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Non, nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance. Il faut comprendre l'Ancien Testament dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. C'est l'Écriture pour toujours. Que Dieu nous aide à grandir les uns et les autres. Vous savez, si nous tous, nous nous enracinons à nouveau dans la parole de Dieu, nous découvrons la vérité de la parole de Dieu, nous allons tous nous réunir. Ce qui nous divise souvent, c'est ce manque de connaissance commune de la parole de Dieu. Mais si tous, nous croyons en la même parole, alors avec évidence, tous, nous serons proches les uns des autres. Amen. Alors, que le Seigneur nous donne cette humilité pour nous laisser enseigner. Amen.